Chapitre 2. Le but de la rue. Gilliatt habitait la paroisse de Saint-Sanson. Il n'y était pas aimé. Il y avait des raisons pour cela. D'abord, il avait pour logis une maison visionnée. Il arrive quelquefois, à Jersey ou à Guernesey, qu'à la campagne, à la ville même, passant dans quelque coin désert ou dans une rue pleine d'habitants, vous rencontrez une maison dont l'entrée est barricadée. Le hou obstrue la porte, on ne sait quel hideux emplâtre de planches clouées bouche les fenêtres du rez-de-chaussée. Les fenêtres des étages supérieurs sont à la fois fermées et ouvertes. Tous les châssis sont verrouillés, mais tous les carreaux sont cassés. S'il y a un bel, une cour, l'herbe y pousse. Le parapet d'enceinte s'écroule. S'il y a un jardin, il est orti, ronce et ciguë, et l'on peut y épier les insectes rares. Les cheminées se crevassent, le toit s'effondre. Ce qu'on voit du dedans des chambres est démantelé. Le bois est pourri, la pierre est moisie. Il y a au mur du papier qui se décolle. Vous pouvez y étudier les vieilles modes du papier peint, les griffons de l'Empire, les draperies en croissant du Directoire, les balustres et les cipes de Louis XVI. L'épaississement des toiles pleines de mouches indique la paix profonde des araignées. Quelquefois on aperçoit un pot cassé sur une planche. C'est là une maison visionnée. Le diable y vient la nuit. La maison, comme l'homme, peut devenir cadavre. Il suffit qu'une superstition la tue. Alors elle est terrible. Ces maisons mortes ne sont point rares dans les îles de la Manche. Les populations campagnardes et maritimes ne sont pas tranquilles à l'endroit du diable. Celles de la Manche, archipel anglais et littoral français, ont sur lui des notions très précises. Le diable a des envoyés par toute la terre. Il est certain que Belphégor est ambassadeur de l'enfer en France, Huguin en Italie, Bélial en Turquie, Tammuz en Espagne, Martinet en Suisse et Mammon en Angleterre. Satan est un empereur comme un autre, Satan César. Sa maison est très bien montée. Dagon est grand panetier, Sous-Corbénote est chef des eunuques, Asmodée, banquier des jeux, Cobal, directeur du théâtre, et Verdelet, grand maître des cérémonies. Nibas est bouffon. Virus, homme savant, bon strigologue et démonographe bien renseigné, appelle Nibas le grand parodiste. Les pêcheurs normands de la Manche ont bien des précautions à prendre quand ils sont en mer, à cause des illusions que le diable fait. On a longtemps cru que Saint-Maclou habitait le gros rocher carré Ortac, qui est au large entre Origny et les Casquets. Et beaucoup de vieux matelots d'autrefois affirmaient l'y avoir très souvent vu de loin, assis et lisant dans un livre. Aussi les marins de passage faisaient-ils force génuflexion devant le rocher Ortac, jusqu'au jour où la fable s'est dissipée et a fait place à la vérité. On a découvert et l'on sait aujourd'hui que ce qui habite le rocher Ortac, ce n'est pas un saint, mais un diable. Ce diable, un nommé Jocmousse, avait eu la malice de se faire passer pendant plusieurs siècles pour Saint-Maclou. Au reste, l'Église elle-même tombe dans ses méprises. Les diables Raguel, Oribel et Tobiel ont été saints jusqu'en 745, où le pape Zacharie, les ayant flairés, les mit dehors. Pour faire de ces expulsions, qui sont certes très utiles, il faut beaucoup se connaître en diable. Les anciens du pays racontent, mais ces faits-là appartiennent au passé, que la population catholique de l'archipel normand a été autrefois, bien malgré elle, plus en communication encore avec le démon que la population huguenote. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est que cette minorité fut jadis fort ennuyée par le diable. Il avait pris les catholiques en affection et cherchait à les fréquenter, ce qui donnerait à croire que le diable est plutôt catholique que protestant. Une de ses plus insupportables familiarités, c'était de faire des visites nocturnes aux lits conjugaux catholiques, au moment où le mari était endormi tout à fait et la femme à moitié. De là des méprises. Patouillet pensait que Voltaire était né de cette façon. Cela n'a rien d'invraisemblable. Ce cas du reste est parfaitement connu et décrit dans les formulaires d'exorcisme sous la rubrique « De erroribus nocturnis et dissemine diabolorum ». Il a particulièrement sévi à Saint-Hélier, vers la fin du siècle dernier, probablement en punition des crimes de la Révolution. Les conséquences des excès révolutionnaires sont incalculables. Quoi qu'il en soit, cette survenue possible du démon, la nuit, quand on n'y voit pas clair, quand on dort, embarrassait beaucoup de femmes orthodoxes. Donner naissance à un Voltaire n'a rien d'agréable. Une d'elles, inquiète, consulta son confesseur sur le moyen d'éclaircir à temps ce quiproquo. Le confesseur répondit « Pour vous assurer si vous avez affaire au diable ou à votre mari, tâtez le front. Si vous trouvez des cornes, vous serez sûr. » « De quoi ?» demanda la femme. La maison qu'habitait Gilliatt avait été visionnée et ne l'était plus. Elle n'en était que plus suspecte. Personne n'ignore que lorsqu'un sorcier s'installe dans un logis hanté, le diable juge le logis suffisamment tenu et fait au sorcier la politesse de n'y plus venir, à moins d'être appelé comme le médecin. Cette maison se nommait le but de la rue. Elle était située à la pointe d'une langue de terre, ou plutôt de rocher, qui faisait un petit mouillage à part dans la crique de Houmet-Paradis. Il y a là une eau profonde. Cette maison était toute seule sur cette pointe, presque hors de l'île, avec juste assez de terre pour un petit jardin. Les hautes marées noyaient quelquefois le jardin. Entre le port de Saint-Sanson et la crique de Houmet-Paradis, il y a la grosse colline que surmonte le bloc de tours et de lierre appelé le château du Val ou de l'Archange, en sorte que de Saint-Sanson, on ne voyait pas le but de la rue. Rien n'est moins rare qu'un sorcier à Guernesey. Ils exercent leur profession dans certaines paroisses, et le XIXe siècle n'y fait rien. Ils ont des pratiques véritablement criminelles. Ils font bouillir de l'or, ils cueillent des herbes à minuit, ils regardent de travers les bestiaux des gens. On les consulte, ils se font apporter dans des bouteilles de l'eau des malades, et on les entend dire à demi-voix « L'eau paraît bien triste ». L'un d'eux un jour, en mars 1857, a constaté dans l'eau d'un malade sept diables. Ils sont redoutés et redoutables. Un d'eux a récemment ensorcelé un boulanger ainsi que son four. Un autre a la scélératesse de cacheter et sceller avec le plus grand soin des enveloppes où il n'y a rien dedans. Un autre va jusqu'à avoir dans sa maison sur une planche trois bouteilles étiquetées B. Ces faits monstrueux sont constatés. Quelques sorciers sont complaisants et pour deux ou trois guinées prennent vos maladies. Alors ils se roulent sur leur lit en poussant des cris. Pendant qu'ils se tordent, vous dites « Tiens, je n'ai plus rien ». D'autres vous guérissent de tous les maux en vous nouant un mouchoir autour du corps. Moyen si simple qu'on s'étonne que personne ne s'en soit encore avisé. Au siècle dernier, la cour royale de Guernesey les mettait sur un tas de fagots et les brûlait vifs. De nos jours, elle les condamne à 8 semaines de prison, 4 semaines au pain et à l'eau, et 4 semaines au secret, alternant. Amant alterna catenae. Le dernier brûlement de sorciers à Guernesey a eu lieu en 1647. La ville avait utilisé pour cela une de ses places, le carrefour du Bordage. Le carrefour du bordage a vu brûler 11 sorciers de 1565 à 1700. En général, ces coupables avoués. On les aidait à l'aveu au moyen de la torture. Le carrefour du bordage a rendu d'autres services encore à la société et à la religion. On y a brûlé les hérétiques. Sous Marie Tudor, on y brûla, entre autres guenots, une mère et ses deux filles. Cette mère s'appelait Pérotine Massy. Une des filles était grosse. Elle accoucha dans la braise du bûcher. La chronique dit « Son ventre éclata. » Il sortit de ce ventre un enfant vivant. Le nouveau-né roula hors de la fournaise. Un nommé House le ramassa. Le bailli, Élie Gosselin, bon catholique, fit rejeter l'enfant dans le feu.